La Revenante de Richard Lestlead. Il est certain que l'esprit vient aux filles bien plus tôt qu'aux garçons, et je ne sais comment elles peuvent apprendre les choses les plus difficiles sans qu'on les leur ait enseignées. Je n'en veux pour preuve que les démêlés que j'eus à 15 ans avec ma cousine Augusta, qui avait mon âge tout juste et qui passait pour la plus sage fillette qu'on pût voir à 10 lieues à la ronde. Au reste, nous étions sages tous les deux. Nous n'avions été gâtés, à certains points de vue, ni par le couvent, ni par le collège. Nos parents étant pour l'éducation de famille, on m'avait donné un précepteur, pendant qu'Augusta était confiée aux soins de Miss Bridget, rigide gouvernante anglaise qui ne la quittait jamais. Mon précepteur était moins fidèle et prenait des vacances au mois chaud. J'allais passer le temps de son absence chez mon oncle, où je retrouvais ma petite cousine avec un plaisir qui croissait tous les ans. En effet, au plaisir de revoir une camarade de jeu, se joignirent le charme des souvenirs des années précédentes. Quelles parties n'avions-nous pas faites dans les grands appartements du château, dans le parc, dans les jardins, dans le verger, dans les charmilles? Quoi de plus amusant, après les vendanges, que de construire des maisons dans les vignes dont on entrelace les pampres, de vraies maisons avec des chambres, des corridors et des portes à claire-voie. Puis on va se rendre visite, on fait des dînettes avec les raisins glanés sur les traces des vendangeurs, on se barbouille, on se salit, et on attrape de temps en temps de bonnes petites coliques. Rien de plus aimable, assurément. Voilà qu'une année j'arrive comme à l'ordinaire, chargé de prix que mon précepteur ne manquait jamais de me donner. Je crois bien que j'étais son seul élève. J'embrasse mon oncle, j'embrasse ma tante, je cherche Augusta pour l'embrasser, et je m'aperçois qu'elle est toute raide, à cause d'une robe longue qui l'agrandissait tellement qu'elle ne finissait pas. Je m'approche avec embarras, elle me tend la main d'un air timide. Miss Bridget lui avait fait la leçon. « Ah, ça, me dit mon oncle, veux-tu embrasser ta cousine, oui ou non ?» J'hésite. Augusta vient à moi et me tend la joue. Je demeurai troublé le reste de la journée. Le soir, en me couchant, je cherchais à me rendre compte de ce qui s'était passé. Je ne trouvais rien, sinon que ma cousine avait des robes qui lui couvraient les pieds et que j'étais bien bon de m'en inquiéter. Est-ce que cela devait nous empêcher de jouer ? Mon père m'avait bien dit qu'il me ferait faire un habit l'année suivante et cela m'amusait peu. Le tout est de s'y faire. On est un peu chose en commençant, mais ça ne dure pas. Ce qui arriva le lendemain et les jours suivants prouve que je ne m'étais pas trompé. Je m'habituais facilement au costume de ma cousine. Sa robe ne l'empêchait pas de courir. Elle relevait légèrement ses jupes des deux mains et je ne l'attrapais qu'avec beaucoup de peine. Un jour que nous sautions des fossés à la perche bretonne, je m'aperçus qu'elle avait une jolie jambe et je pris plaisir à la regarder. Voilà qui est bête. Pensez que depuis 10 ans je connaissais les jambes d'Augusta comme les miennes. Je l'avais vue 100 fois avec des fourreaux qui lui allaient à peine aux genoux. C'était des jambes comme les autres. Quelle culbute n'avions-nous pas faites ensemble? Et pourquoi m'avisais-je de regarder ses jambes, précisément parce qu'elle les cachait? C'était un bizarre caprice. Je fus au moment de lui dire « Montre-moi tes jambes ». Je n'osais pas. Il me semblait qu'elle aurait refusé, exprès, pour m'ennuyer. Et cela me donnait envie de les voir. Au fond, nous n'étions plus amis comme autrefois, du moins pas de la même manière. Notre intimité ancienne allait jusqu'aux calottes. Nous en échangions de temps en temps et je tapais plus fort qu'elle, naturellement. C'était changé du tout au tout. Je sentais qu'il ne faut pas battre les grandes filles. Augusta abusait de mes scrupules. Au lieu de jouer à la bonne franquette, elle faisait sa tête, elle voulait et ne voulait pas. Ses essais de tyrannie m'agaçaient, je l'envoyais promener. « Va te coucher, » disais-je. C'est un mot d'écolier. Alors elle boudait. Sa bouderie, qui m'ennuyait les années précédentes, s'était modifiée et ne lui allait pas mal. Elle allongeait ses lèvres rouges qui ressemblaient à un bouton de rose. Sous ses grands cils noirs, ses larmes indécises avaient un faux air de diamant. Ça ne me faisait rien, jadis. Maintenant, ça me faisait quelque chose, et j'allais lui demander pardon pour me rendre compte de ma bêtise. Un jour, elle voulut pêcher à la ligne, plaisir maussade que je déteste de tout mon cœur. Il faut aller s'asseoir au bord d'un ruisseau et suivre de l'œil pendant des heures entières un flotteur qui frémissait aux ondulations du courant. Moi, je l'observais de bonne foi. Ma cousine ne regardait rien. Elle avait la tête penchée sur son épaule, ses cheveux blancs dénoués, les yeux distraits. J'étais bien aise d'être avec elle, quoique la pêche à la ligne soit ma bête noire. On n'y a jamais rien pris. Comme je m'embêtais, Ah oui, je m'embêtais solidement. Voilà Augustin qui s'appuie sur moi et se met à pleurer. Qu'as-tu ? Est-ce que tu es malade ? Veux-tu que j'appelle Miss Bridget ?
Non, dit-elle. Ce n'est rien. Je suis nerveuse aujourd'hui.
Nerveuse ? Comme maman, alors ? Morveuse, va. Mais je ne lui dis pas ma pensée. De temps en temps, pourtant, elle reprenait sa gaieté et je retrouvais mon ancienne camarade. Alors nous passions de bonnes journées. Il y avait au fond du jardin un poirier que nous avions l'habitude de piller tous les ans. C'était pour nous comme une tradition. Cela nous amusait d'entendre mon oncle s'écrier « Il me semble que mes poires diminuent. On en vole sûrement. Il faudra que je les compte. » Augustin monta sur le poirier sans y penser. Moi, pour lui faire une farce, je retirai l'échelle, si bien qu'elle ne pouvait plus descendre. Autrefois, elle riait, puis se fâchait et refusait de me jeter des poires. Moi, je secouais l'arbre pour lui faire peur. Je la vis tellement effrayée que je n'y comprends rien.
« Ne regarde pas !»
criait-elle.
« Pourquoi ?»«
Parce que je ne veux pas. »«
Alors envoie-moi des poires. »«
Non. » Il se mit à me prier d'une voix si douce que je m'attendris. Elle me promit de m'embrasser. L'idée me vint que, depuis 15 jours que nous étions ensemble, nous nous étions à peine embrassés. Je rapportai l'échelle et quand elle descendit, je lui tendis la joue.
« Que tu es bête !» me dit-elle.
« Ce ne sont pas les filles qui embrassent les garçons, au contraire !» Je m'approchai, et comme elle oublia de détourner la tête, je l'embrassai à moitié sur les lèvres, ce qui me déplut. Mais Augusta était si fraîche et sentait si bon que je n'en eus pas de regret. Elle devint toute rouge et moi aussi. Le lendemain, ce fut une autre histoire. Nous jouions à cache-cache. Je courais après elle. Son pied s'embrassa dans des ronces. Elle tomba. Je la relevai. Elle porta la main à son corsage avec un cri d'oiseau blessé.
« Tu t'es fait mal ? » dis-je.
« Montre voir un peu. » Elle ne voulait pas. Je la bousculais. « Voilà bien des cérémonies, » fis-je en ouvrant sa blouse, car elle portait des corsages plissés et bouffants. Alors je vis des choses que je ne m'attendais certes pas à rencontrer chez une petite fille de cet âge. Cela me bouleversa jusqu'au fond de l'âme. Je fus pris d'une sorte de tremblement qui me coupait la respiration. Augustin n'était pas moins ému. Elle oubliait de refermer son corsage. Il fallait bien finir par parler. Je lui demandais d'une voix mal assurée.
« Où t'es-tu fait mal ?»«
Nulle part, » fit-elle en se rajustant et en se sauvant comme si le diable l'emportait. Ma question avait rompu le charme. Je la suivis, un peu fâchée contre elle. Il me semblait qu'elle s'était rendue coupable à mon égard d'un manque de confiance. Nous restâmes à distance toute la soirée. Il y avait dans mon fait un étonnement mêlé de colère. Une gamine qui se permettait d'avoir des choses comme une nourrice, si ça ne faisait pas suer. Notre attitude fut remarquée. On fit à ce sujet des plaisanteries déplacées. Il n'est pas d'insulte comparable à celle qui consiste à traiter en enfant un jeune homme de 16 ans. Ce n'est pas que juste des moustaches, mais je connaissais beaucoup de lycéens qui en avaient et étaient moins avancés que moi en thème. Devant Augusta, surtout, je ne sais pourquoi, ces railleries m'étaient insupportables. C'est avec un peu d'humeur que je répondis à mon oncle, qui persistait à se moquer de moi. « Mon précepteur, cher oncle, a dit lui-même qu'il n'avait plus rien à m'apprendre et que je terminerai mes études quand je le voudrais. »«
C'est très bien, » dit mon oncle, « je t'en fais mon compliment. »
Mais ne voilà-t-il pas ma pimbèche de cousine qui se met à rire en disant « Ah bien, s'il n'a plus rien à t'apprendre, il n'en sait pas long, ton précepteur. » « Par exemple, m'écriai-je, ce n'est pas toi qui lui en remontrerais. »«
Peut-être, » répliqua-t-elle.
« Vrai, je ne sais rien d'aussi agaçant que les femmes. Il y a des moments où l'on voudrait tomber sur elles. On croit d'abord que c'est pour les assommer, et puis les idées changent complètement. » J'étais dans la première période de ce mouvement d'idées, et je ne sais si je n'aurais pas préféré donner à ma cousine une gifle qu'un baiser. Mon oncle, qui me vit fort animé, voulut arranger les choses et fit entendre une voix indulgente. « Le temps n'est plus, » dit-il à sa fille, « où Léon boudait dans les coins et se conduisait en petit garçon. C'est maintenant un jeune homme dans toute la force du terme, et je le crois capable des choses les plus sérieuses. Tu as tort de le taquiner et de mettre en doute son héroïsme, toi qui joues encore avec ta poupée. » Ce mot me donnait beau jeu. Je demandai à Augusta des nouvelles de Mademoiselle Cato, m'intéressant fort à son mariage avec Polichinelle et aux enfants qu'elle pourrait en avoir. Augusta se mordit les lèvres, car je touchais un point sensible. elle conservait des sentiments d'affection puérils pour une grande poupée qui ne s'appelait Cato que quand elle était en faute. On la nommait du beau nom de Rosalinde quand elle était sage ou quand cela plaisait à sa petite mère. Après avoir écrasé de sa plus jolie moue ceux qui parlaient mal de sa fille, Augusta voulut braver nos railleries et, foulant aux pieds le respect humain, se leva fièrement pour tirer Rosalinde du tiroir où elle était couchée. Rosalinde se réveilla de fort bonne humeur, ouvrit ses grands yeux bleus et, ravie de se trouver dans les bras maternels, s'écria à plusieurs reprises « Maman, maman, maman !» Quelques voisins étaient venus. Cela prolongea la soirée au-delà de l'heure habituelle. On dressa une table de whist autour de laquelle s'assirent les grandes personnes. Je prévis que j'allais m'ennuyer considérablement et, faisant bon marché de ma dignité, je me rapprochai d'Augusta à qui je proposais de jouer aux cartes. « Non, dit-elle. Tu m'as donné envie de jouer à la poupée, et je jouerai à la poupée. » En voyant la piteuse mine que je faisais, ma cousine, qui n'était pas méchante, revint à des sentiments plus doux. « Rien ne t'empêche de jouer avec moi, dit-elle. C'est plus amusant qu'on ne croit de jouer à la poupée. Viens te mettre là. Rosalinde sera ta fille et la mienne, tu vas voir. » Je jetai un regard du côté des joueurs. Le whist les absorbait. J'avais honte de ce que j'appelais ma lâcheté. J'en pris mon parti toutefois et me plaçai tout près d'Augusta sur un petit tabouret dans le coin sombre de l'appartement où elle s'était réfugiée. « Qu'allons-nous faire ? » demandai-je. « Oh, tant de choses, la dînette, la promenade. Nous coucherons l'enfant, nous le lèverons. C'est comme si nous étions mariés ensemble. Tiens, garde Rosalinde, je vais aux provisions. » Elle me mit la poupée sur les bras et sortit pour aller à l'office. Quel air pouvais-je avoir avec cette poupée dans les mains, moi qui venait d'en rire avec tant de noblesse. Je m'enfonçai dans un recoin de façon à ce que personne ne pût me voir. « Léon, dit ma cousine en rentrant, où t'es-tu fourré ? Ah, te voilà, c'est bien heureux. Comment tiens-tu, Rosalinde ? Tu ne sais donc pas tenir les enfants. Qu'est-ce qu'on t'apprend au lycée ?» Elle revenait sur son injure. Je ne la relevais pas et fis bravement la dînette avec elle. Je ne sais où elle avait appris tout ce qu'elle apporta. Nous sortions de table, cela ne nous empêcha pas de manger de grand appétit. Rosalinde fut un peu oubliée. Je reprochai à Augusta d'être une mauvaise mère. « Pas du tout, dit-elle. Rosalinde n'est pas sevrée, c'est ce qui l'empêche de dîner à table. »« Alors, répondis-je, puisque nous avons fini, c'est à son tour. » Une rougeur mutuelle nous colora les joues. Augusta, qu'on ne démentait pas aisément, prit la poupée et lui passa la tête sous son fichu. Elle trichait. « Si on fait semblant, dis-je, ce n'est plus de jeu. » « Comment veux-tu que je fasse ? » demanda-t-elle. « Comme les nourrices. » Augusta me lança un regard indigné. En vérité, cette petite fille avait le diable au corps. Elle me donnait des idées, tout exprès, pour me prendre au piège et me couvrir de confusion. Je cherchais à m'excuser. « Quand on est marié, dis-je, on n'y fait pas tant de façons. Vois Madame Durand et la jardinière. Pour bien jouer au ménage, on fait comme les grandes personnes, à moins qu'on n'en ait pas, bien entendu. De quoi n'ai-je pas ? Dit-elle. « Tu le sais bien. J'en ai plus que toi, » fit-elle. « La belle malice, » dis-je, « je ne suis pas maman, moi. » À quel propos lui cherchais-je cette mauvaise querelle ? Que sais-je, il y avait dans mon fait une malignité d'écolier, mêlée à un désir inouï de revoir les choses que ma cousine m'avait montrées dans la journée. Qui mieux que moi savait qu'elle en avait, moi qui n'avais qu'à fermer les yeux pour revoir ces blancheurs éblouissantes ? Mais je ne sais pourquoi j'étais irrité et cherchais à blesser ma petite amie. Elle me tourna le dos, nous étions brouillés. Je me levai gravement, plein de mépris pour cette mère dénaturée qui donnait à téter à son enfant à travers sa robe. Augusta me laissa partir. J'allais tournailler autour des tables de whist, ne sachant que faire de ma personne, car c'est un jeu bien ennuyeux à regarder. Je finis par lorgner du coin de l'œil mon ennemi. La petite masque s'était abritée du côté de la table de jeu et, sans paraître faire attention à personne, tenait sa poupée appliquée contre sa poitrine qu'elle s'était décidée à découvrir. Ah, quel battement de cœur me prirent, et comme les plus grandes joies qui vous arrivent dans la vie sont peu de choses auprès de ces premiers éveils. Oh, la première femme qui vous dit « je t'aime », les premières découvertes, les premiers baisers. Quel est-il arrivé ? Pendant que je m'approchais sournoisement, tout doucement, de peur d'effaroucher mon rêve, ce rêve s'envola. C'est-à-dire qu'Augusta, avec un beau sang-froid, referma son corsage et se prit à embrasser sa poupée avec passion. « Qu'elle est belle !»
dis-je en reprenant ma place sur le tabouret.
« N'est-ce pas ? » fit ma cousine, touchée de mon admiration pour Rosalind.
« Presque aussi belle que toi, »
dis-je d'une voix étranglée.
« Oh ! » fit Augusta, à qui je n'avais jamais fait de compliment.
« Tu me trouves belle ? »
« Veux-tu, » dis-je sans lui répondre, « veux-tu te marier avec moi ?
C'est convenu, puisque voilà notre fille. »«
Non, pas pour jouer. Veux-tu te marier avec moi pour de bon ?»
Étais-je assez sincère ?
Et ma cousine donc ?
Son corsage se souleva. Après un moment de silence, elle répondit,
« Tu es trop jeune.
J'ai 2 ans de plus que toi.
C'est égal. Un homme ne peut pas se marier avant 20 ans.
Crois-tu que je ne saurais pas te protéger ?
Je ne sais pas, dit-elle.
Et puis, fis-je,
je t'aimerais tant.
J'avais envie de pleurer. Elle le devina.
Voyons, me dit la cruelle fille, je ne veux pas te faire de la peine. Je ne dis pas non, et même je t'aimerais mieux qu'un autre. Mais tu dis que tu m'aimes, il faut me le prouver. Que ferais-tu bien pour moi ?
Descendrais-tu seulement à la cave ?
À la cave ? Dans toutes les caves ?
Non, je veux parler de la cave du château.
La cave du château n'était pas, certes, la première cave venue. Elle jouissait d'une grande réputation dans le pays. La vaste habitation de mon oncle datait de 200 ans environ et avait été construite sur d'anciennes carrières dont la topographie n'était pas connue. Ces souterrains, qu'on n'avait jamais complètement visités, s'étendaient fort loin dans la campagne où ils prenaient jour par des crevasses et des ouvertures. On n'avait jamais entendu dire qu'aucun événement sinistre s'y fût passé, mais des vagabonds s'y réfugiaient quelquefois et cela suffisait pour les rendre redoutables. Quand la partie de whist fut terminée, je demandai à mon oncle de vouloir bien m'autoriser à explorer les souterrains du château, donnant pour prétexte à cette fantaisie le défi d'Augusta.
« Je ne demande, fis-je fièrement, qu'une lanterne pour y voir et un pistolet pour me défendre.
« Passe pour la lanterne, dit mon oncle, mais pour le pistolet, n'y compte pas.
J'approuve du reste ton entreprise chevaleresque, car il m'a paru que ta cousine te traitait avec peu de respect. Il faut prouver aux femmes que nous sommes pétris d'une autre argile qu'elle.
Ah, mon oncle, je ne me plains pas d'Augusta.
Je te permets de remplacer le pistolet par un gourdin. L'arme n'est pas héroïque, mais elle est suffisante.
Un pistolet a ses dangers. Tu t'exposerais à tirer, dans un moment de trouble, sur quelques paysans ou quelques domestiques.
Je n'aurais pas peur, mon oncle.
Je n'en doute pas. Tu as 24 heures pour te préparer à ton expédition. Demain, à la tombée de la nuit, tu te mettras en route et j'espère que tu nous rapporteras un journal de voyage à faire pâlir celui de Don Quichotte dans la caverne de Montesinos.
J'ai dormi fort bien, quoique visité par des rêves fantasques. Je fis le lendemain une assez longue promenade sentimentale avec ma cousine. On parla peu des souterrains. Il me paraissait de mauvais goût de donner de l'importance à cette affaire. Enfin, l'heure arriva. Dès la fin du dîner, je me préparai au départ. Je pris un bâton solide et une grosse lanterne où brûlait une chandelle entière. Mon oncle me recommanda de ne pas aller trop loin, de prendre des points de repère et de ne pas m'égarer comme un étourdi, car cela l'obligerait à m'aller chercher. Les gens de la maison paraissaient peu rassurés. Miss Bridget se mouchait d'une manière attendrie. Augusta, tout émue, me sauta au cou.
« Si tu as peur, appelle-moi, » dit-elle.
Après ce baiser, je descendis d'un pas ferme l'escalier en spirale qui conduisait dans les souterrains du château où m'attendait une singulière aventure. Cet escalier, médiocrement solide, aboutissait à la partie des carrières que mon oncle avait prosaïquement transformée en cave. On avait relié quelques piliers de soutènement par des cloisons de maçonnerie et l'on y gardait une assez forte provision de vin. Je ne m'arrêtais pas dans ce lieu vulgaire et m'enfonçais dans les ténèbres avoisinantes, laissant à mes yeux le temps de se faire à l'obscurité qui m'entourait. Je m'assurai du bon état de ma lanterne et j'entrai dans l'inconnu. À d'assez grandes distances, j'apercevais des points lumineux, jour que le souterrain prenait dans la campagne. Les galeries irrégulières formées par les piliers étaient obstruées de pierrailles et de broussailles. Je tournais le dos aux clartés afin de donner à mon expédition un caractère plus aventureux. Les plaisanteries de ma cousine me tenaient au cœur. Pourtant, je ne lui en voulais pas. Quand je pensais à elle, mon cœur battait malgré moi. Je lui en voulais de douter de ma bravoure, elle, une peureuse de premier ordre. Je l'avais bien vue le jour du poirier, mais ce défaut me paraissait excusable chez les femmes et autorisé par la faiblesse de leur sexe.
Depuis, il m'a été démontré et prouvé qu'elles sont autrement solides que nous, surtout dans les grandes occasions. Je ne le savais pas encore. Je poussai quelques cris d'appel qui firent résonner des échos sous les profondeurs des voûtes. Je marchais avec difficulté, d'un pas résolu, vers le point le plus obscur du souterrain. Ma lanterne m'éclairait assez mal. J'observais les détails de la route que je suivais, autant que la clarté vacillante de mon fanal pouvait le permettre. Je tenais à faire, à mon retour, un récit intéressant de mon exploration. Je réunis peu d'éléments dignes d'intérêt. Quelques piliers portaient des inscriptions ou des noms effacés. Je lus sur l'un d'eux avec un certain étonnement « Ah, que l'amour est agréable !» Qui pouvait avoir consigné cette pensée intime dans cette région inexplorée? Un carrier sentimental, deux amants surpris par la tempête et réfugiés sous ce vaste abri, comme le pieux aîné et la reine de Carthage. Vaine conjecture, mais l'amour est une chose agréable, certainement. De temps en temps, les débris du roc s'élevaient jusqu'à la voûte, interceptant le passage et m'obligeant à un détour. Ma plus dangereuse rencontre fut celle d'un puits à fleurs de terre. Je l'aperçus, heureusement, au moment d'y tomber. J'y jetai des pierres qui firent entendre, au bout d'un moment, le bruit d'un rejaillissement d'eau. Cela me remua. La situation se dramatisait. J'aurais très bien pu me noyer dans ce gouffre. Je faisais appel à mon sang-froid lorsque subitement quelque chose d'énorme, de prodigieux, d'insolite sortit du puits avec fracas et se heurta contre ma lanterne qui m'échappa des mains. Je voulus la ressaisir. Elle roula sur le sol et disparut dans le puits où elle provoqua un lointain clapotement. Je me retournai. J'étais enveloppé d'une obscurité insondable. C'est alors que deux grands yeux fauves, phosphorescents, s'ouvrirent en face de moi. On me regardait. Je voulus crier, appeler. La voix me manqua. Les yeux terribles paraissaient et disparaissaient par intervalles. Après un premier moment de terreur, je m'expliquai ce phénomène. La vue de ma lanterne avait tout bonnement troublé quelque oiseau de nuit dans le puits qu'il avait choisi pour retraite. La peur que j'avais eue m'inspira une colère indigne. Je ramassai des pierres que je lançai à la pauvre bête. L'une d'elles porta juste, sans doute, car l'animal poussa un lugubre croassement et disparut avec un lourd bruit d'ailes. Cela commençait à devenir intéressant. J'étais fort perplexe. Où aller? De quel côté me diriger? J'avais sur moi quelques allumettes qu'il fallait ménager. La rencontre du puits m'obligeait à une grande prudence. Je sondais le terrain avec le bâton que j'avais emporté, regrettant de n'avoir pas à ma disposition le fil de dédale. Je crus n'avoir rien de mieux à faire que de revenir sur mes pas pour tâcher de découvrir une lueur quelconque vers laquelle je me dirigerais. La difficulté était précisément de revenir en arrière. J'en eus la preuve. Après un quart d'heure de marche lente et pénible, j'entendis le froufrou de mon hibou, et j'en conclus que j'avais dû marcher circulairement et rejoindre à mon point de départ. Le puits était peut-être voisin. Cela commença à m'inquiéter. J'appelais « mon oncle » avec une certaine énergie. Je n'y mettais plus d'amour-propre. Je m'assis contre un pilier en attendant qu'on vînt me chercher. De temps en temps, je poussais des cris d'appel. Cela dura plus d'une heure. L'obscurité me donnait une sensation de froid très incommode. Il me semblait entendre aux environs l'oiseau, mon ennemi, ce qui me faisait une sorte de compagnie. Je déclare qu'en dépit de mes contrariétés, j'étais d'un sang-froid suffisant pour me rendre compte des choses extérieures. Aussi, l'on peut juger du désordre de mes idées quand, dans un éloignement qui me parut prodigieux, je vis le soleil qui se levait. Oui, j'en atteste le ciel, c'était un vrai soleil, qui me causait d'abord un éblouissement, son éclat succédant aux ténèbres compactes dans lesquelles j'étais plongé. Ce soleil était reconnaissable, non seulement aux rayons de lumière polarisés qui l'entouraient, mais une bonne face souriante, figurant plutôt un visage humain que les taches dont cet astre se couvre quelquefois. Cette invention d'Augusta me parut médiocrement ingénieuse. Elle devait bien penser que je reconnaîtrais le soleil de notre vieille lanterne magique. Aussi vis-je lui succéder, sans émotion, la lune et les étoiles, le portrait de M. Thiers et la chasse du beau Pécopin. C'était bien une idée de petite fille que celle de me montrer la lanterne magique dans un souterrain. On faisait bon marché des dangers réels que j'avais courus, et j'en éprouvais un vif ressentiment. On devait avoir entendu mes cris, et tout en venant à mon secours, ma cousine avait jugé spirituel de me faire des farces.
je m'attendis à tout. Augusta était fort espiègle, et quoique sa fantasmagorie fût un début maladroit, je compris qu'elle avait décidé qu'on me ferait peur. À moi, cela pouvait coûter cher. Je me levai hardiment et me dirigeai vers les apparitions qui surgissaient dans la carrière. Parfois, toute lumière disparaissait. J'étais guidé par des frôlements, des chuchotements, des rires étouffés. Augusta, cette petite peste, avait dû amener une partie de nos gens avec elle. Comme je m'y attendais, le fantôme traditionnel ne tarda pas à se présenter. Quelques bruits de chaîne l'annoncèrent. Des « ouh, ouh » bien poussés précédèrent son approche. Je vis s'avancer au bout d'une perche un potiron lumineux affublé de grands draps blancs qui lui faisait une queue de comète. C'est certainement une des plus effroyables apparitions qu'on puisse imaginer. Je ramassai une pierre d'une bonne grosseur et la lançai sur l'horrible figure que j'écrabouillais du cou. Cela était violent et même dangereux, mais j'étais irrité de voir qu'on m'apprenait pour un imbécile. J'en voulais à Augusta de chercher à m'effrayer par de pareils moyens. Je me sentais capable de lui prouver qu'elle n'était qu'une sotte enfant et de la corriger en conséquence. Oui, l'idée me vint de lui donner le fouet, pour venger mon honneur outragé, pour lui faire voir qu'elle n'était qu'une gamine, un bon fouet à main plate, résonnant carrément sur le derrière. J'avais comme un vague souvenir de le lui avoir donné autrefois quand j'étais en robe comme elle. Cela se perdait dans la nuit des temps. Nous verrions bien si après cela, elle se moquerait encore de moi et ferait la renchérie et la demoiselle. Je m'animais dans ce projet de vengeance quand une forme blanche passa rapidement près de moi. C'était forcé. Après le fantôme, le revenant, je me précipitais sur la figure voilée qui s'arrêta subitement. « Oh !» me dit une voix bien connue. « Ne me jette pas de pierre !»« Ah, c'est toi ! Ah, c'est toi » fis-je en enlaçant ma cousine et en l'entraînant vers un pilier. « Ah, c'est toi qui me prends pour un enfant qui l'en fait peur. Eh bien, tu vas voir. » Je n'avais peur de rien. J'avais la tête montée. La correction enfantine que je rêvais me paraissait le plus juste des châtiments. « Oh, Léon » fit-elle. « Y penses-tu ? Pardon ? Je ne veux pas. Pardon, je t'en prie. » La pauvre enfant, dont les genoux tremblaient, tomba près de moi sur un lit de moellons et de gravats. Je l'avais enlacée pour la contenir. Elle palpitait comme une colombe effarouchée. Sa poitrine se gonflait. Elle cachait sa tête sur mon épaule et abaissait sa robe sur ses pieds retirés sous elle. Moi, j'étais immobile, pétrifié, épouvanté de mon audace, dévoré de remords. Le ciel avait puni ma hardiesse. Au moment où je portais sur ma cousine une main téméraire, je ne sais quel choc électrique m'avait frappé. La conscience de mon crime m'écrasait. Je priais, je pleurais, j'enveloppais l'enfant de caresses passionnées. Je lui demandais pardon, avec des pierres ardentes et des larmes qui tombaient sur ses cheveux. « Je suis indigne de vivre, » lui disais-je. « Je ne me le pardonnerai jamais. »« Augusta, ma cousine, mon ange, mon amour. » « Ôte d'abord tes mains, » dit-elle, « et ne parlons plus de cela. » Et nous restions tous deux sur les pierres qui nous entraient dans les côtes, effarouchés, oppressés, étourdis par le monde de sensations inconnues qui s'éveillaient en nous. Pourquoi Augusta avait-elle des cheveux doux et fins comme de la soie? Je n'y avais jamais fait attention. Il me semblait que maintenant je mourrais pour un de ses cheveux. On ne nous maria que longtemps après, mais le diable n'y perdit rien. Et comme il faut toujours finir par un bon conseil ou une pensée morale, c'est du fond de l'âme que je dis à mes lecteurs « Regardez-y à deux fois, avant d'essayer de donner le fouet à une grande fille, parce qu'il y a 100 à parier contre un, que c'est vous qui le recevrez. » C'est ainsi que se termine La Revenante de Richard Lesclide.